Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Thérapie Pop, l'émission qui explore avec vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Et comme à l'accoutumée, c'est de Gauthier que je suis accompagné pour la thérapie de cette semaine. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
La dernière thérapie de la saison et la dernière thérapie de Thérapie Pop, parce que c'est avec une émotion non feinte que je vous annonce que l'émission s'arrêtera après celle-là.
Et oui.
Après 5 ans, passé dans vos oreilles, on était bien dans vos oreilles. 5 ans de grosses rigolades, de quelques bières, on va pas vous mentir non plus.
De beaucoup trop de bières.
On reviendra peut-être un jour. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir et on remercie encore Radio Présence et toutes les équipes de Radio Présence.
De nous avoir fait une petite place.
Ouais, de nous avoir offert l'opportunité de venir vous chatouiller les tympans, parfois peut-être un peu trop.
De nous avoir fait des émissions sur Daft Punk, sur Libertine de Mylène Farmer.
Sur tous ces mauvais rappeurs. Non, on aura bien rigolé. Enfin, bref. Je suis un petit peu ému, j'en suis désolé. Tu as décidé de me faire plaisir, en tout cas, pour cette dernière thérapie, mon cher Gauthier, puisque nous allons, dans l'émission de ce jour, explorer l'univers d'un groupe canadien que j'ai certes lâchement abandonné, et je crains de ne pas être le seul, mais qui a fait vibrer mes tympans durant de longues années. Tu le rappelles suffisamment dès qu'on parle musique, c'est-à-dire presque à chaque émission. Si vous êtes des fidèles de Thérapie Pop, vous aurez certainement deviné que c'est d'Arcade Fire dont nous allons parler aujourd'hui. On va pas évoquer le sublime premier album, ni le sombre, mais toutefois magnifique deuxième disque. Non. On va aujourd'hui décortiquer le morceau qui donnera son titre au troisième album du groupe sorti en 2010 et qui s'intitule The Suburbs. Un album que Pitchfork décrira par ces mots: The Suburbs est l'album d'Arcade Fire à leur niveau le plus humain, moins grandiloquent, plus personnel et probablement plus dévastateur. Et Gauthier, avant de nous dire si tu partages cette critique, je t'invite à remonter le temps. On va partir à la rencontre de Win Butler, le chanteur et tête pensante du groupe. C'est de son enfance que tout part. Elle est comment cette enfance?
Alors c'est tout à la fois de son enfance en tant que période de vie, mais également de la localisation de son enfance dont on parle, ouais. Puisque les suburbs sont les on va dire les banlieues, hein, en anglais, en américain, et Win Butler a grandi dans la banlieue de Houston au Texas et garde on va dire une inspiration forte pour cet album. C'est à cette banlieue américaine qui rend hommage, à ses grands lotissements, ses centres commerciaux, ses malls, cette dépendance aux grosses voitures et aussi un peu cet ennui latent. On en reparlera. C'est ça dont il va vouloir s'inspirer pour cet album. Il le dira lui-même: The suburbs are a place where you are safe, but you are also trapped. C'est-à-dire, ouais, c'est un endroit où on est en sécurité, mais aussi dans lequel on est un peu enfermé.
Piégé, ouais.
Voilà.
On l'a dit en introduction, Arcade Fire s'était fait connaître avec le magistral Funeral et avait confirmé l'essai avec Neon Bible. Mais leur son change sur ce troisième album, Gauthier.
Oui, hein, radicalement, parce que en fait, leurs deux premiers albums étaient extrêmement orchestrés. Il y avait du violon, Neon Bible, ça avait été enregistré dans une église, il y avait on va dire, des orgues, etc. Alors que là, ils viennent avec les Suburbs, avec un son plus punchy, plus direct, aussi un tout petit peu plus nostalgique, et avec un son, en fait, nettement plus qualifiable de rock. Et je vais citer le magazine Rolling Stones, qui a une petite métaphore assez amusante. Ils disent « They trade the cathedral-sized anthem for songs about parkings, lots and childhood streets. » En gros, ils ont, ils ont échangé, ouais, leur son de cathédrale pour des chansons sur des parkings et l'enfance dans des rues. Et effectivement, ce changement de thème, on se rappelle que Funeral et Neon Bible étaient aussi inspirés par un thème profondément déprimant, puisque il y avait.
Comme son nom l'indique, Funeral.
Et puis Neon Bible, ouais. Voilà, la pochette était peu engageante. Effectivement, là, c'est un changement de thème qui va s'accompagner, comme souvent chez les artistes, d'un changement de ton, puisque l'album, encore une fois, est plus péchu, plus direct, un peu plus nostalgique aussi, mais moins triste et moins orchestral, moins chargé.
Et comment se passe l'enregistrement de ce troisième album ?
Alors, on se déplace, alors pas tellement en banlieue, on va aller à Montréal, à New York, au Texas, et avec cette façon de travailler qui est systématique chez Arcade Fire, c'est-à-dire un système de travail collégial, c'est un groupe assez élargi, hein, ils sont je crois 6 ou 7 en général sur scène, et une dizaine en tout de musiciens qui se croisent en studio. On quitte un son peut-être un peu moins chargé, mais avec quand même des méthodes de travail qui demeurent extrêmement collectives.
Et donc, on l'a dit, cet album traite de la vie dans une banlieue américaine, mais à une période de la vie bien spécifique, justement, Gauthier.
Oui, c'est ce que je te disais. Pour Win Butler, les Suburbs, c'est tout à la fois une géolocalisation, mais c'est aussi une période de son existence, c'est son enfance. Et le thème, c'est pour ça qu'on parle aussi un peu de nostalgie quand on parle des Suburbs, traite de ce que l'enfance va façonner pour l'adulte, puisque l'adulte n'est qu'un enfant qu'on a poussé dans la vie, on va dire. Et Win Butler le dira lui-même, « It's about realizing that the world you grow up is doesn't exist anymore. » Comprendre, ça parle du moment où tu réalises que le monde dans lequel tu as grandi n'existe plus. On pourrait prolonger la phrase en disant, et malgré le fait qu'il n'existe plus, il demeure, on va dire, la colonne vertébrale de ton existence. On écoute souvent la musique qui a bercé de notre enfance, et notre oreille en tant qu'adulte change en fait finalement relativement peu.
C'est vrai. On parle de musique, Gauthier, mais Arcade Fire va trouver l'inspiration dans d'autres domaines artistiques.
Alors, bien évidemment, dans tout ce qui est tiré de la banlieue, alors beaucoup de romans américains en la matière, et aussi sur les films de Terrence Malick que Win Butler notera comme une inspiration forte. L'album inspirera par ailleurs lui directement le film Scenes from the Suburbs de Spike Jonze, donc vous comprenez, scène autour, enfin à propos de la banlieue.
On se l'écoute ?
On s'en écoute un petit bout, Théo, parce qu'elle dure 5 minutes quand même.
Ouais.
Allez. La banlieue de Bondigou, mon cher Théo. Pour ceux qui ne connaissent pas Bondigou, allez regarder sur Street View, il n'y a pas de banlieue.
Il n'y a presque pas de village. On vous parle donc, vous l'aurez entendu, de The Suburbs d'Arcade Fire. L'album, donc là on est en train de s'écouter The Suburbs, le titre, mais l'album éponyme sort en 2010. Et l'année suivante, Arcade Fire va créer la surprise en remportant la récompense la plus prestigieuse.
Oui, le Grammy de meilleur album, ce qui est toujours assez louable pour un album de rock, avec une réaction qui sera virale sur internet, puisqu'il y aura même presque un mime, quoi. Who is Arcade Fire? C'est-à-dire que les gens découvriront subitement.
C'est dingue.
Voilà, alors que c'est pas leur meilleur album.
De loin.
Voilà, mais bon, c'est celui qui est le plus pop, le plus rock, le plus efficace.
C'est alors que le monde donc découvre Arcade Fire. Hein, puisque le morceau va devenir culte.
Tout à fait.
Pour toute une génération.
Oui, il sonne en fait finalement beaucoup plus ancré dans les années 80-2000 que leurs deux précédents albums qui étaient à bien des égards très révolutionnaires, très révolutionnaires. Alors que là, le son qu'ils ont est quelque chose de en fait qui va parler à tous les gens qui ont un peu la génération de Win Butler 90-2000 plutôt, ouais, qu'on grandit avec ce rock. Donc c'est Few Songs have captured suburban nostalgia so preciously. Beaucoup des chansons ont capturé la nostalgie des banlieues et je crois aussi du son, encore une fois, des années 90 et début des années 2000. C'est un album qui était fait pour nous, mon cher Théo, en fait.
Oui, oui. Et pour moi, il n'a pas été trop efficace. On le sait, les loulous sont plutôt doués en termes de communication, mais avec le clip de The Suburbs, ils frappent plutôt fort, là, Gauthier.
Oui, ils vont faire un clip interactif avec Google Chrome, pour ne pas citer le navigateur.
Ouais. J'ai essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Moi.
Et ouais, moi non plus. L'idée, c'était, mais je ne sais pas, ça ne marche pas principalement aux États-Unis, mais il y avait une version interactive où, en fait, en principe, si tu mettais ton adresse, etc., tu pouvais avoir des images personnalisées un peu dans le clip. C'était une expérience révolutionnaire à l'époque, mais je crois que ça ne marchait pas très bien pour Bondigo, en tout cas, mon cher Théo. C'est possible. La Google Card n'était pas passée.
Je te sens taquin sur cette dernière émission. Contrairement à ce que l'on pourrait penser à la première écoute, Win Butler n'exècre absolument pas la banlieue de son enfance.
Non, il le dira lui-même. It wasn't hell, ce n'était pas l'enfer. It just wasn't everything it promised to be. Ce n'était pas exactement, par contre, tout ce que ça promettait d'être.
Ouais. Et comme le succès tant critique que public de cet album peut le laisser penser, il a influencé une tripotée d'autres artistes.
Et ben, oui, en fait, des gens qui étaient jeunes au moment où The Suburbs va sortir dans les années 2010 et qui feront de la musique après. Je peux citer Snail Mail, Phoebe Bridgers, The War on Drugs, qui avait déjà un peu commencé sa carrière, mais ouais, tous ces gens qui seront inspirés par cette écriture, tout à la fois inspirés d'une nostalgie lucide, hein, non romantisée, et en étant toujours un tout petit peu quand même rock, inspiré du son de la fin des années 90.
Et on l'a évoqué, Gauthier, cet album est synonyme d'un changement de direction dans le son d'Arcade Fire. Ça plaît pas à tout le monde dans le groupe.
Et non, puisqu'il y aura des dissensions fortes en interne, puisque certains des musiciens, notamment je pense que ceux qui ont des violons ont dû tirer la gueule, accepteront assez mal ce changement de direction artistique.
Bon, t'as quelque chose à rajouter ou pas ?
Eh ben oui, bien sûr que j'ai quelque chose à rajouter. Un immense merci à Radio Présence de nous avoir accueillis pendant ces 5 années et de nous avoir laissé un petit bout d'antenne. Un immense merci à nos auditeurs, je sais pas s'ils étaient quelques ou assez nombreux. Et surtout, mon cher Théo, parce que toi, je suis sûr que tu étais là, un immense merci à ces 5 ans de présentation que tu as fait. Même si tu n'avais pas commencé la présentation, le format initial n'était pas très bon. mais voilà, un immense merci pour ces tranches de rire, pour avoir été un compagnon de route absolument remarquable et performant à l'antenne. Je déplore que France Inter ne t'ait toujours pas contacté. Ça viendra peut-être.
Je ne te l'ai pas dit, mais...
Et on se revoit dans 30 ans quand l'émission sera devenue culte. Ou pas. Voilà, un immense merci à tous. Et à toi en particulier.
Et merci à toi aussi, Gauthier, de m'avoir offert l'opportunité, parce que c'est toi qui nous a fait rentrer ici. Merci de m'avoir offert cette opportunité, parce que vraiment, on aura bien rigolé. On espère que vous aussi. C'était chouette.
Une très bonne semaine à eux, non,
Théo ? Ouais, un très bel été à tous. Et si Dieu veut, à bientôt.
À bientôt. Salut.
Salut.